Chapitre 19. Brooklyn. De retour dans l'appartement dévasté, Nikki et Sébastien s'installèrent dans la cuisine, derrière le comptoir en bois sur lequel était posé l'ordinateur. Nikki mit l'appareil sous tension et lança sa messagerie pour récupérer la vidéo. À la terreur des premiers visionnages avaient succédé les interrogations et la recherche d'indices pour tenter de décrypter le film. Mais cette opération était très incertaine sur l'écran miniature d'un téléphone. Nikki transféra l'enregistrement vers un logiciel destiné au traitement de la vidéo numérique. « Où as-tu appris à faire ça ?» demanda Sébastien, surpris de la découvrir aussi à l'aise avec l'informatique. « Je fais du théâtre amateur avec une troupe de Williamsburg, » expliqua-t-elle. « Je filme des séquences pour les intégrer dans nos spectacles. » Sébastien hocha la tête. Il connaissait cette nouvelle tendance et n'avait jamais été convaincu par l'utilisation du cinéma sur une scène théâtrale, mais ce n'était pas le moment d'ouvrir ce débat. Nikki lança la vidéo en plein écran. En version 17 pouces, l'image était exagérément pixelisée. Elle ajusta la taille jusqu'à obtenir une qualité exploitable. Dépourvu de son, le film était piqué, un peu verdâtre, strié dans la largeur. Il émanait visiblement d'une caméra de surveillance. Une nouvelle fois, ils regardèrent la vidéo à vitesse normale. Le film durait moins de 40 secondes, mais la brièveté de la scène ne la rendait pas moins douloureuse. La caméra était fixe, placée en hauteur pour surveiller le quai d'une station de métro ou de train de banlieue. L'enregistrement débutait par l'entrée en gare d'une rame. Les portes automatiques à peine ouvertes, un jeune garçon, Jérémy, quittait le wagon pour s'enfuir en courant sur le quai. On le voyait jouer des coudes pour s'extraire de la foule avant d'être pris en chasse par deux hommes. La course-poursuite ne couvrait qu'une trentaine de mètres et s'achevait au niveau des escaliers par un violent plaquage au sol. Au cours des dernières secondes, on apercevait l'un des agresseurs, le visage déformé par un sourire inquiétant, prendre le temps de se retourner pour regarder fixement l'objectif. Puis un écran de neige interrompait brusquement l'enregistrement. Une coulée d'angoisse glaça les reins de Nikki, mais elle essaya de tenir à distance ses émotions, condition sine qua non pour avoir une chance de faire parler le film. « Tu penses que c'est où ? » demanda-t-elle. Sébastien se gratta la tête. « Aucune idée, ça peut être à n'importe où. » Je vais relancer la séquence au ralenti et, si nécessaire, on fera du plan par plan pour collecter le maximum d'indices. » Il hocha la tête et se concentra. À peine Nikki avait-elle remis l'enregistrement que Sébastien pointa l'index vers l'écran. Il y avait une indication de date portée en bas à droite de l'image. « Le 13 octobre », lut-il en plissant les yeux. « C'était hier ?» Le premier plan montrait la rame de métro qui s'immobilisait à quai. Elle appuya sur pause pour figer la scène et observer plus attentivement le wagon. « Tu peux zoomer ?» Elle s'exécuta. Apparemment, c'était un modèle de métro assez ancien aux rames blancs et vert jade munis de poignées chromées. « Il y a un logo là, en bas du wagon !» À l'aide du trackpad, elle isola la zone puis fit une mise au point. L'emblème était flou mais on distinguait clairement un visage stylisé tourné vers le ciel. « Ça te dit quelque chose ?» demanda-t-il. Elle fit non de la tête, puis se ravisa. « Enfin, je ne crois pas. » Elle relança la vidéo. Les portes s'ouvraient sur un adolescent vêtu d'un blouson teddy en laine et en cuir. Nikki figea à nouveau l'image pour l'agrandir. Le jeune homme avait la tête baissée et le visage masqué par une casquette de baseball des Mets. « On n'est même pas sûr qu'il s'agisse vraiment de Jérémy, » constata-t-il. Elle balaya l'objection. « J'en suis certaine, c'est son allure, c'est sa casquette, ce sont ses vêtements. » Dubitatif, Sébastien se pencha sur l'écran. L'ado portait un jean slim, un t-shirt, une paire de Converse, comme tous les adolescents du monde. « Croisant mon instinct maternel, » appuya Nikki. Pour apporter une preuve de ce qu'elle affirmait, Nikki découpa l'image pour faire apparaître en son centre le t-shirt du gamin. Elle nettoya l'agrandissement du mieux qu'elle le put. En lettres rouges sur fond noir, l'inscription « The Shooters » floquée sur le maillot de coton apparut progressivement sur l'écran. « Le groupe de rock fétiche de Jérémy !» s'exclama Sébastien. Nikki approuva d'un mouvement silencieux de la tête avant de poursuivre le visionnage. Dans le désordre et la confusion, Jérémy s'élançait hors du wagon, fendant la foule pour échapper à ses poursuivants. Enfin, les deux hommes surgirent dans le champ de la caméra. Ils provenaient sans doute d'un wagon attenant, mais on ne les voyait que de dos. Les yeux collés à l'écran, ils repassèrent la séquence plusieurs fois, mais à cause de l'affluence et de l'éloignement, la scène manquait de netteté. Puis vint le passage le plus éprouvant. celui au cours duquel leur fils était violemment plaqué au sol, en bout de quai, juste avant d'atteindre l'escalier de sortie. Les 5 dernières secondes étaient les plus marquantes. Après avoir fauché Jérémy, l'un des 2 agresseurs se retournait, cherchant la caméra des yeux avant de lui adresser un sourire moqueur. « Ce salopard sait qu'il est filmé !» explosa Sébastien. « Il nous nargue !» Nicky isola le visage et fit toutes les manipulations possibles pour le rendre plus net. Le type avait une dégaine hallucinante, moue sardonique, barbe broussailleuse, cheveux longs et gras, lunettes fumées, bonnet de ski enfoncé jusqu'aux oreilles. Une fois les réglages effectués, elle lança une impression haute définition sur du papier photo. En attendant que la machine crache le tirage, Sébastien s'interrogea. « Quel est le but de nous faire parvenir ça? Il n'y a pas d'instruction, pas de demande de rançon, ce n'est pas logique. Peut-être que ça viendra plus tard. » Il récupéra le portrait dans le bac de l'imprimante et scruta le visage, cherchant un détail qui pourrait le mettre sur la piste de l'identité de l'agresseur. L'homme semblait grimé. Le connaissait-il? Probablement pas, mais il était impossible de l'affirmer tant l'image était floue, déformant un visage lui-même masqué par des lunettes, un bonnet et une barbe à l'allure factice. Nicky lança le film une nouvelle fois. « Concentrons-nous sur le lieu et le décor. Il faut à tout prix que l'on sache quel est cet endroit. » Sébastien décida d'oublier les visages et les mouvements pour recentrer son attention sur la gare. Il s'agissait d'une station souterraine à voûte elliptique, desservie par 2 voies. Les parois étaient tapissées de petits carreaux de faïence blanche et de panneaux publicitaires. « Tu peux zoomer sur cette affiche ?» Nicky s'exécuta. Il s'agissait d'un poster rose fuchsia annonçant la comédie musicale « My Fair Lady ». En effectuant la mise au point, elle parvint à déchiffrer « Châtelet, théâtre musical de Paris ». Sébastien resta sans voix. « Paris ! Qu'est-ce que Jérémy serait allé faire en France ? C'est surréaliste ! » Et pourtant, il se souvenait à présent où il avait vu le symbole du visage tourné vers le ciel. Lors de son seul et unique voyage à Paris 17 ans plus tôt. Il ouvrit une nouvelle fenêtre sur l'ordinateur, lança le navigateur Internet, tapa « Métro Paris » sur Google et en 2 clics se retrouva sur le site de la RATP. Le logo qui apparaît sur les wagons est bien celui des transports parisiens. « Je vais identifier la station », assura Nicky en pointant dans le fond de l'écran un panneau bleu où se découpait en lettres blanches le nom de l'arrêt de métro. L'opération prit plusieurs minutes. Le nom de la station, long et compliqué, n'apparaissait à l'écran que quelques centièmes de seconde et de façon très partielle. Après de rapides recherches sur le net, ils arrivèrent à la conclusion qu'il s'agissait probablement de Barbès-Rochechouart, une station du nord de la capitale. Sébastien était de plus en plus troublé. Par quel circuit cette vidéo avait-elle pu leur parvenir? Entre les couloirs et les quais de métro, le réseau parisien de vidéosurveillance devait déployer comme à New York des milliers de caméras. Mais ces images n'étaient pas en accès libre. Les caméras étaient reliées à des PC de sécurité qui ne transmettaient normalement les bandes qu'au service de police, dans le cadre strict d'une réquisition judiciaire. « Essaie encore de composer le numéro », suggéra Nicky. Elle faisait allusion à la série de chiffres qui s'étaient affichés sur l'écran du téléphone juste avant que la voix ne les menace. « Mon petit doigt me dit que vous aimeriez avoir des nouvelles de votre fils. » Ils avaient rappelé dans la voiture juste après la découverte de la vidéo, mais sans succès. Cette fois, pourtant, ce fut différent. Après 3 sonneries, quelqu'un décrocha et lança d'une voix enjouée « La langue au chat, bonjour !» Sébastien ne possédait que quelques rudiments de français. Après maintes explications de son interlocuteur, il finit par comprendre que la langue au chat était un café du 4e arrondissement parisien. Son correspondant, un simple bistrotier, était totalement étranger à cette histoire. Quelqu'un avait certainement passé le coup de fil depuis son établissement, 1 heure plus tôt, ce qui provoqua l'incompréhension du bonhomme et la colère de Sébastien. « Il se moque de nous, il joue avec nous !»« En tout cas, toutes les pistes mènent à Paris, » constata Nicky. Elle regarda sa montre avant de demander « Tu as ton passeport sur toi ?» Sébastien acquiesça, mais voyant où elle voulait en venir, préféra la mettre en garde. « Ne me dis pas que tu comptes aller à Paris aujourd'hui !» C'est la seule chose à faire. Toi, tu réfléchis beaucoup, mais tu ne fais rien. Attends, tu ne crois pas qu'on brûle les étapes, là? On ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent. En agissant exactement comme ils l'attendent de nous, on se jette dans la gueule du loup. Mais elle était décidée. Tu fais comme tu veux, Sébastien, mais moi, je pars. Il se prit la tête dans les mains. La situation lui échappait. Il savait très bien qu'il ne parviendrait pas à raisonner Nikki. Qu'il la suive ou non, elle ne renoncerait pas à ce voyage. Et quelle autre initiative avait-il à lui proposer ? « J'achète nos billets », capitula-t-il en se connectant au site de Delta Airlines. Elle le remercia d'un signe de tête et monta dans sa chambre pour préparer une valise en vitesse. « Veuillez valider vos coordonnées bancaires. » En cette période creuse, Sébastien n'eut aucun mal à trouver deux places sur le vol de 21h50. Il paya en ligne, imprima les reçus et les cartes d'embarquement. Il s'apprêtait à rejoindre Nikki lorsque le tintement guilleret du carillon le fit tressaillir. Machinalement, il rabattit l'écran du portable, puis, à pas de loup, se rapprocha de la porte d'entrée et regarda à travers le Judas. Santos. Il ne manquait plus que lui. Sans bruit, il récupéra les billets et monta à l'étage pour retrouver Nikki. Elle fourrait des vêtements dans un grand sac de sport. Il articula silencieusement « Santos » et, le doigt sur la bouche, lui fit signe de son autre main de le suivre dans la chambre de Jérémy. Alors qu'il l'entraînait vers la fenêtre, elle s'arrêta soudain et fit demi-tour vers le bureau pour attraper le baladeur de son fils, un iPod rouge qu'elle rangea dans son sac. Sébastien leva les yeux au ciel. « Quoi ? J'ai la phobie de l'avion. Si je ne peux pas écouter de la musique, je vais avoir une crise de panique. « Dépêche-toi » la pressa-t-il. Elle le rejoignit et l'aida à faire coulisser le châssis de la fenêtre à guillotine. Il sortit le premier et lui tendit la main pour l'aider à attraper l'échelle en fonte. Puis ils s'enfuirent dans la nuit.